France Culture.
À voix nue. Cette semaine, Marceau Vassy s'entretient avec
Michel Troisgros, troisième génération de cuisiniers à Roanne.
Troisième épisode, trouver sa recette. Michel Troisgros, nous avons parlé hier de vos années de formation à l'école hôtelière de Grenoble, puis de vos différents stages auprès de grands cuisiniers, ainsi que de votre goût pour le voyage et pour le Japon. Nous sommes toujours à Ouche, dans le domaine que vous avez acquis en 2017 et dans lequel se trouve votre restaurant, le restaurant maintenant de votre fils César. Dans ce troisième épisode, il sera question de vos années de travail aux côtés de votre père à Roanne, puis de vos débuts à la tête de la maison Troisgros à partir de 1996. Mais revenons d'abord en 1983. C'est une année décisive dans votre carrière parce que vous avez le projet avec votre femme Marie-Pierre d'ouvrir un bistrot ou de reprendre un bistrot à Sydney en Australie. Pourquoi est-ce que vous aviez cette envie d'aventure culinaire à l'autre bout du monde ?
Pour voyager, pour continuer ce qu'on avait débuté presque 10 ans plus tôt par la Suisse et qui nous avait amené dans de nombreux pays avec chaque fois voilà, des découvertes incroyables, des gens incroyables, des cuisines incroyables, une liberté... Voilà, on avait pris goût à cette liberté. Et puis, il n'était pas question de toute façon de rentrer à Roanne, puisque mon père et mon oncle occupaient, et régnaient, pas seulement sur la cuisine de Roanne, mais même sur la cuisine en général, quoi. Ils étaient quelques-uns avec Bocuse, c'était des seigneurs de la cuisine. Alors, donc, on fait une étape à Roanne, parce que tous les deux, parce que notre visa est échu à New York, où on travaillait tous les deux. Chez Bloomingdale's, dans un grand magasin. Moi, pour Michel Guérard, qui, après une saison à Eugénie-les-Bains, m'envoie faire l'ouverture d'un délicatessen chez Bloomingdale's. Et Marie-Pierre pour Petrosian, le caviar Petrosian. C'était fabuleux, hein, notre... Mais enfin, bon, on est en bout du visa, donc on revient à Roanne. Et là, je retrouve mon père et mon oncle, à régner sur une cuisine. Hors de question de ne pas repartir, donc on fait une demande de visa. Pour l'Australie, l'Australie nous faisait rêver, tout comme la Californie nous faisait rêver, mais là c'était l'Australie. On avait un copain là-bas qui était à Sydney, qui connaissait très très bien le monde de la restauration. Et il se trouve qu'il a une de ses relations qui avait besoin d'un chef un peu expérimenté, parce que là, à 25 ans, on commence à l'être. Hein. On commence seulement à l'être, mais bon, j'avais quand même le bagage. Quand même, hein, j'avais commencé à l'âge de 15 ans et demi, j'avais eu pas mal de cuisine chez des grands chefs français, pas mal de cuisine du monde, je m'appelais Troisgros, le mec il se dit, il y a peut-être un bon coup à faire à Sydney, il se dit, je vais embaucher le fils Troisgros. Et puis sa femme aussi, j'ai besoin des deux, j'ai pas d'experts, peut-être qu'ils le sont, Et donc, pour avoir un visa pour l'Australie, il fallait absolument avoir la garantie d'un emploi là-bas. On a la garantie de l'emploi, le type nous fait les lettres qu'il faut pour faire la demande de visa, et on est dans l'attente de ce visa, sauf qu'entre-temps, pendant le mois d'août 83, mon oncle Jean est brutalement décédé sur un court de tennis, d'un arrêt cardiaque. Et là, mon père se retrouve tout seul après avoir fait une vie à deux. Marie-Pierre et moi, on est là. On n'est pas inactif. On n'est pas inactif parce qu'on occupe notre temps à s'améliorer, quoi, en connaissance. Moi, j'avais profité des quelques semaines qui étaient là pour travailler auprès de mon père et de mon oncle, avec aucune envie de rester, mais travailler quand même, pour ne serait-ce que pour connaître le saumon à l'oseille. Du coup, le visa est arrivé. Marie-Pierre et moi, on s'est dit, bon, on va peut-être retarder un peu, histoire d'aider mes parents, qui étaient secoués. La maison était quand même secouée par une disparition brutale. Mon oncle Jean avait 57 ans, je crois. À ce moment-là, mon papa en avait 55, il était en pleine forme. Mais bon, la moitié de lui, d'une certaine façon, disparaissait parce qu'ils partageaient tout, hein, tous les deux en cuisine. Hein. Je veux dire, toutes les recettes, toute la cuisine, toutes les responsabilités de cuisine, les achats. D'un seul coup, l'organisation interne du restaurant, à part la réception qui était entre les mains de ma mère, toute l'organisation, en tout cas, de la cuisine était à revoir. Et mon papa me propose, en effet, d'être à ses côtés. Je lui dis oui pour un moment. Et ma maman propose la même chose à Marie-Pierre. Oui, mais pour un moment. Vraiment, on s'est dit, on va rester 3 mois. Mais au bout de 3 mois, on s'est senti plutôt bien. On s'est senti plutôt bien parce que quand on est de passage dans des maisons, comme ça, un an et demi, on ne reçoit pas de responsabilité, en fait. Et là, on goûtait aux responsabilités. Très vite, mon papa, il se dit, faut que je les retienne. Peut-être. Ça n'a jamais été formulé, mais aujourd'hui, quand j'y regarde, je me dis, tiens, il y a peut-être un petit piège à ce moment-là tendu. En tout cas, on se sent bien. Marie-Pierre prend des responsabilités à la réception. Ma maman, on pourrait dire, elle y voit, elle y perçoit chez Marie-Pierre une formation qu'elle n'avait pas. À ce moment-là, arrivent aussi les premiers outils, à la fois pour tenir une caisse, à la fois pour communiquer, les premiers outils informatiques. Ma mère, elle n'avait pas tout ça. Et moi, mon papa me donne très vite de chef de parti rôtisseur saucier, qui était le poste occupé par mon oncle. Je deviens sous-chef de cuisine. Donc c'est quand même super motivant quoi d'avoir ça. Et là, quelques mois s'écoulent, Marie-Pierre tombe enceinte de Marion. Donc après, il y a la grossesse, il y a la naissance de Marion, des responsabilités supplémentaires qui arrivent. Et puis voilà, et puis après, l'Australie, c'est peu à peu, elle s'est éloignée de nos projets au profit d'un bien-être, on pourrait dire, dans une maison familiale, ouais, d'un bien-être. Surtout moi personnellement, Marie-Pierre, probablement qu'elle, elle était moins à l'aise que moi et que ce projet peut-être était toujours là, dans un coin de sa tête, etc. Moi, franchement, je crois qu'après, j'étais trop bien dans mes responsabilités de chef. Et mon papa, là, il commence à me laisser faire des premiers plats, des premières choses, et des petites initiatives, participer à l'élaboration d'une création à ses côtés. Et c'est comme ça, en fait, que le goût de Roanne est arrivé. Oui, le goût de Roanne, en fait, est arrivé dans notre vie.
Michel Troisgros, est-ce que ces 13 années passées aux côtés de votre père en cuisine, de 1983 à 1996, vous avez l'impression que vous avez eu l'espace dont vous aviez besoin, l'espace de création, l'espace pour exister par vous-même, ou c'était un peu quand même restreint ou étriqué parfois?
C'est un temps long, c'est 13 ans quand même de collaboration. Il y a eu des étapes où au départ, il ne me laissait pas faire, puis peu à peu, il m'amène à... Et puis moi, je prends confiance, et puis... Puis les années passent, et puis il y a des doutes aussi. Dans cette décennie, on pourrait dire, il y a des doutes. Est-ce qu'on est bien là? Est-ce que ça a un sens de reprendre une maison comme ça? Et puis il y avait les 3 étoiles qui étaient là. Oui, il y a des doutes quant à nos compétences, il y a des doutes quant à être là, alors qu'on pourrait être ailleurs. Mon frère était déjà parti pour le Brésil, donc il nous parlait du Brésil, on allait le voir au Brésil pendant nos vacances. Voilà, déjà, on voyait... ce qu'il était en train de faire là-bas, comment il vivait le Brésil. Voilà, il s'épanouissait là-bas. Nous, on était toujours dans cette maison, place de la gare, à Roanne, sous la tutelle de mon père. Oui, il y a eu des moments de doute, des moments de frustration, des moments de tension même avec mon père. Jamais trop violent, puisque la transmission s'est faite. Mais je crois qu'il a su à chaque fois me donner ce qu'il fallait. Pour, en tout cas, que je trouve finalement à la fois le plaisir et l'objectif, la possibilité en tout cas de continuer. Et pourtant, on ne donnait pas cher de nous hein, à ce moment-là, hein, parce que la clientèle était une clientèle quand même qui regardait plutôt du côté de mon père que de mon côté. Surtout après, je veux dire, même après... 13 ans, 12-13 ans aux côtés de mon père, c'était toujours la cuisine de mon père, et mon père qui avait, on pourrait dire toujours, j'étais dans son ombre, quoi, j'ai marché dans ses pas. Mais quand même, lui, de son côté, mon papa m'a donné la possibilité de faire déjà des propositions maladroites. Hein. C'était maladroit au début, mais de faire des propositions, qui étaient d'ailleurs assez confuses, mes propositions de cuisine, puisqu'elles étaient empruntées un peu là, un peu là, un peu là, de tout ce que j'avais... en effet, pu découvrir chez les grands chefs ou dans mes voyages. Mais jusqu'en 96, en tout cas, les choses se font. C'était pas tous les jours tranquille, mais les choses se font. Marie-Pierre, elle, très vite, prend la place de ma maman. Hein, parce que ma maman, elle s'est rendue compte des capacités de Marie-Pierre, d'une part, et puis elle a souhaité prendre un peu de recul.
Vous nous avez dit, Michel Troisgros, que vos parents ont été assez absents. Ils ont été très pris, très absorbés par cette vie de restauration, par les impératifs du métier de cuisine. Qu'est-ce qu'il en a été pour vous avec vos propres enfants, avec votre famille? Est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre?
Oui, grâce à Marie-Pierre, qui a fait face à la fois à son statut de restauratrice, hôtelière, et à la fois à la vie familiale, aux enfants tout jeunes, à leur éducation, etc. Marie-Pierre s'en est beaucoup occupée, alors que moi, en effet, j'étais trop présent dans le restaurant. Elle a une capacité de travail, d'organisation, de décision qui est rare et qui lui permettait de jongler entre ces deux pôles. Rouen, c'est plus facile qu'à Paris, hein, quand même, ou que dans les grandes villes, parce que il y avait à Rouen la possibilité d'être très vite. Alors, contrairement à ma jeunesse, où moi j'ai grandi au-dessus du restaurant, là on a eu une petite maison qui était à Riorges, mais enfin, il faut 5 minutes hein, entre les deux lieux. Mais non, voilà, j'avoue que c'est des. Probablement que ça devait être un peu tendu à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est comme si c'était. C'est comme s'il n'y avait pas eu de difficultés.
Justement, en 1996, quand votre père Pierre Troisgros décide de raccrocher le tablier et que s'ouvre pour vous et Marie-Pierre la possibilité de reprendre le restaurant Troisgros, est-ce que cette décision, elle est évidente ou est-ce que vous avez quand même une période de réflexion ?
Elle n'arrive pas comme ça, la décision. Elle est le fruit de différentes étapes où mon frère confirme qu'il veut rester au Brésil et faire sa vie au Brésil, où le fils de Jean, qui aurait pu aussi lui reprendre la maison, où il aurait pu être associé, on aurait pu être à deux, tout comme avec mon frère, on aurait pu être à deux et continuer les frères Troisgros. Hein. Georges, lui, donc le fils de Jean, confirme qu'il veut rester à New York. Ma sœur est déjà installée à Bordeaux. Elle a un restaurant, elle est mariée avec un cuisinier. Non, les choses se font par étapes, par déduction. En fait, c'est pas un beau jour arrive comme ça, allez, ça y est, voilà. À la fois, on le voit venir et à la fois, on le voit pas venir. Je sais pas comment dire, ça s'est fait. C'est très curieux de regarder ça aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'était à la fois... ça s'est fait. Donc, cette transmission, elle s'est plutôt... bien passé. Et pourtant, quand j'y étais, j'étais impatient que ça se fasse, quoi. J'ai trouvé long. J'ai trouvé que c'était trop long. Mon père s'accrochait, mon père partait pas. Il approchait les 70 ans. Et à la fois, j'avais un respect fou pour lui. Et à la fois, j'avais, à la fin, après toutes ces années ensemble, j'avais hâte qu'il me passe le témoin, quoi. Voilà. Et d'être livré à moi-même. Tout en ayant la trouille d'être livré à moi-même, c'est très particulier. Puis en plus, je l'analyse maintenant avec voilà, toutes ces années, presque 30 ans de recul. Hein.
Ouais. Est-ce que vous avez quand même senti un poids au moment où c'est vraiment vous qui aviez le seul nom Troisgros en haut de l'affiche ? Est-ce que vous avez eu peur de cet héritage ?
Ouais. Marie-Pierre l'allégeait, ce poids, par une prise de risque. Elle a justement, quand en 96, mon papa prend sa retraite, immédiatement le saumon à l'oseille, il passe à la trappe.
Justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce saumon à l'oseille ? Je sais que c'est une relation qui était peut-être un peu conflictuelle aussi avec ce plat que vous avez eu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
C'est le ras-le-bol, en fait. J'en avais assez de le voir sur la carte, le premier ou dernier jour de l'année. J'en avais assez de le mettre dans la poêle. J'en avais assez de le servir. J'en avais assez d'être paralysé. Enfin, pas paralysé, mais voilà, quelque part un peu... Oui, comment je peux dire ça ? J'avais envie d'exprimer les choses à moi, voilà, de mettre la quille sur le côté. Le saumon à l'oseille a été, en effet, c'était évident que c'était celui-là qui allait y passer, quoi. Mais en même temps, le saumon à l'oseille, à ce moment-là, on trouvait plus de beau saumon. En 95-96, déjà depuis des années, le saumon de Loire n'existait plus, c'était du saumon importé. Et on était déjà dans l'intensité des élevages, avec des saumons qui étaient gras, de mauvaise qualité, etc. Et en même temps, aujourd'hui, quand j'y regarde... C'est par ras-le-bol de le faire, en effet, que je le dégage, mais peut-être aussi pour m'en affranchir, peut-être aussi pour me lancer, je sais dans quoi aujourd'hui d'ailleurs, parce que je me lance dans un truc qui est à moi, mais qui était probablement nettement moins bon que le saumon à l'oseille, mais bon, il m'appartenait pas le saumon à l'oseille, il était héritage, et je voulais à tout prix me dégager de cet héritage un peu trop facile, et que tout le monde me réclamait en plus, tous les clients le voulaient, ce saumon à l'oseille. C'était pas possible de proposer autre chose, non, on veut le saumon à l'oseille. Donc, Et plus on me le disait, plus j'en avais marre. Voilà. Puis en même temps, les principes de la nouvelle cuisine, du saumon à l'oseille qui prend sa source dans la nouvelle cuisine, c'est la saisonnalité et c'est le produit, si possible, dans un périmètre proche. Et là, en fait, ce qu'il a fait, le saumon à l'oseille, avec les années, on a fait aussi, son travers, sa faiblesse. On s'est éloigné même du principe qui l'a fait naître. Donc, je parle du saumon à l'oseille, mais il y a tout un tas de plats à ce moment-là, en effet, mais qui n'ont pas eu la résonance du saumon à l'oseille parce qu'ils étaient moins connus, mais qui passent les uns après les autres, que j'ai pas oublié. Hein. Voilà, ils passent à la trappe, mais en même temps, ils sont là. Hein. Je les ai en mémoire, je sais les faire, et à tout moment, je peux les dégainer. Mais même le saumon à l'oseille, je dirais, il a eu un renouveau, c'est-à-dire que je me suis même intéressé à des propositions de saumon à l'oseille nouvelles. C'est-à-dire, tiens, je vais faire une version à moi du saumon à l'oseille. C'est-à-dire que je vais prendre les mêmes ingrédients du saumon, mais je ne vais pas le couper en escalope. Je vais au contraire le laisser épais, mais je vais lui faire une cuisson basse température. Comme ça, on va avoir le moelleux, qui était cher, en effet, à Jean et Pierre à l'époque. Voilà, il fallait laisser roser à cœur pour avoir le moelleux, etc. Mais là, il va être épais. Je vais le cuire à basse température. Après, je vais faire de l'oseille crue, comme ça, qui va être juste tiédi au moment, mais va garder toute son acidité, l'oseille. Des échalotes ciselées, mais que je vais faire tomber avec un petit peu de vin blanc et un petit peu de noix, mais les laisser très croquantes, comme ça. Et je vais le travailler à la japonaise. C'est-à-dire que, plutôt que de tout mélanger ensemble dans une sauce, eh ben, là, je vais faire du yaourt, parce que c'est beaucoup plus léger que la crème. Et en plus, le yaourt, c'est aigre. Et le goût de l'acidité, je le cherchais, le goût de l'acidité. De l'oseille, je double l'acidité. De l'échalote au vin blanc et au nain, je triple l'acidité. Par contre, j'ai là le saumon épais et rose à cœur. Et on pourrait le manger avec des baguettes. Là aussi, je suis à ce moment-là, en effet, totalement peut-être sous la fascination de la cuisine japonaise qui me, à la fois esthétique, à la fois gustative, et je viens chercher plutôt des touches qu'un ensemble.
Est-ce que justement, pour vous, Michel Troisgros, c'est nécessaire quand on hérite de faire rupture, comme ça, à un moment de se démarquer, de prendre une distance, sans renier, mais prendre une distance quand même?
Je suis pas sûr que c'est la solution absolue. Ça a été la mienne parce que poussé par Marie-Pierre, encore une fois, j'avais des convictions, mais je suis pas sûr que je les aurais appliquées courageusement parce que j'avais mon papa qui était derrière et qui aussi me disait, mais non, mais tu peux pas faire ça. Ah, mais non, on lève pas ce plat. C'est le chiffre d'affaires du restaurant. Tu vois, saumon à l'oseille, mais quand je l'ai enlevé, il comprenait pas. Mais tu te rends compte? La maison s'est faite avec le saumon à l'oseille et toi tu l'enlèves, mais tu te tires une balle dans le pied. Je dis peut-être, mais je vais essayer de proposer autre chose, etc. Mais je crois pas que c'est la solution à tout prix, en effet, de moderniser, de proposer. Je crois pas, je suis pas sûr. L'important c'est d'être sincère, c'est d'être avec soi-même, avec la cuisine qu'on propose, etc. Mais moi je l'ai fait parce que peut-être je le sentais et encore une fois poussé par Marie-Pierre pour le faire. L'audace, la proposition. Et quand je me suis en plus convaincu que la seule tradition qui vaille chez les Troisgros, c'est le changement, alors là, ça y est, j'ai trouvé le truc, j'ai dit, le changement est une tradition. C'est mon grand-père qui l'a dit, le changement est une tradition. Ah ben, je continue la tradition.
En 2002, Michel Troisgros, vous publiez un livre de recettes avec l'auteur culinaire Bénédicte Baugé. Un livre qui s'appelle « La cuisine acidulée de Michel Troisgros » dans lequel vous faites un inventaire de vos recettes, plus de 150. Vous semblez dire que cet inventaire de recettes, ce livre, a eu une importance dans votre carrière. Pourquoi ?
C'est mon premier livre. Donc, il me permet d'organiser la somme de travail que j'ai réalisé les années précédentes, de reprendre une à une chacune des recettes. Certaines étaient déjà codifiées, les autres, j'ai dû les codifier. Donc, un comeback, comme ça, un regard, une analyse de ma cuisine que j'avais jamais faite. Organiser un livre avec tous les chapitres, tous les ingrédients, etc. Et après les organiser, quitte à faire un livre, faisons-les comme aucun autre cuisinier à l'époque, par genre, et non pas les entrées, les poissons, les viandes, les desserts, les soupes, etc. Mais à ce moment-là, je fais la rencontre de Bénédicte Baugé, qui était un historien de la cuisine, mais qui a un extraordinaire palais et qui apprécie ce que je fais. Et moi, je l'apprécie parce que il a des commentaires, des critiques qui est à chaque fois me construisent, m'aident à comprendre. Et c'est lui d'ailleurs qui me fait prendre conscience que j'ai un goût pour l'acidité comme aucun autre et que ça pourrait être un sujet à développer tellement chez moi il est présent. Déjà, il me fait prendre conscience d'où vient cette acidité. En effet, il vient évidemment de mon père, de mes racines bourguignonnes. Bien sûr, les vins blancs, les vins rouges, les réductions, les eaux en morette, la moutarde, le cassis bourguignon, la cuisine que je reçois, le chaumont à l'oseille peut-être aussi est un l'oseille, mais aussi de ma grand-mère italienne qui, elle, acidifie différemment, beaucoup plus avec des zestes d'agrumes ou avec des jus d'agrumes, avec une pointe d'amertume aussi dans la cuisine italienne, des oranges, des pamplemousses, les amertumes de café, de cacao, d'apéritifs italiens qu'on a sur les tables aussi familiales, etc. En tout cas, et puis l'oseille aussi, l'oseille, parce que l'oseille, il n'est pas naturel chez mon père. Il est naturel dans le jardin de ma grand-mère, mais il n'est pas naturel chez mon père. Enfin, en tout cas, ce goût pour l'acidité, je le développe sans le savoir depuis la plus tendre enfance, mais sans le savoir. Et c'est Bénédicte qui m'aide, qui met le doigt dessus, qui me dit « Michel, chez toi, il y a des vibrations, il y a une lumière, une intensité supérieure à la moyenne. » Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Ben, j'ai dit oui. Des fois, il y a des gens qui me renvoient des assiettes parce qu'ils les trouvent trop acides avec le vin qu'ils accompagnent, puis leur palais supporte pas. Enfin bon, voilà. J'ai dit, ah mais il me dit, ben oui, voilà. Tiens, voilà. Il me dit, voilà, la preuve. Écoute, il me dit, si tu veux, on va faire ensemble l'inventaire de tous les acides que tu vas trouver dans tes recettes. Donc là, il y a du lactique, qui évidemment vient des yaourts, de la fermentation du lait, mais il peut y avoir aussi d'ailleurs des beurres aigre-lait. Là, il y a tous les acides agrumes, qui sont soit dans le zeste, soit dans la pulpe, soit dans le jus. Et donc, en plus, avec les agrumes exotiques, ceux qui viennent de loin et qui sont encore peu connus en France, je pense au sudashi, je pense au yuzu à ce moment-là, qui est très peu connu en France. Après, il y a l'acerbe, le goût pour l'acerbe. Donc l'acerbe, c'est l'oseille, justement, mais aussi l'oxalis. Et puis, après, il y a une autre famille qui est les condiments. Ben voilà, les condiments, et notamment les cornichons, parce que j'ai grandi avec le pot de cornichons. En effet, moi, les cornichons, quand j'étais gamin, on les mettait là, 1, 2, 3 entre chaque doigt, donc et 4 avec le pouce. On avait, les cornichons, on les mettait comme ça. Il y avait toujours le pot au centre de la table, comme il y avait d'ailleurs aussi un pot de moutarde. Et les cornichons, on les mangeait comme ça, voilà. Donc j'ai un goût pour les condiments, j'ai un goût pour les câpres, j'ai un goût développé par tout ce qu'on met comme ça dans le vinaigre, à préserver dans le vinaigre, etc. Donc on fait l'inventaire de tout ça. Il se trouve que, je sais pas, on trouve, Bénédicte et moi, on a une douzaine de familles, et là-dedans, on vient caler les recettes existantes ou de nouvelles à créer, et avec ça, on a composé le livre. Alors, Cuisine acidulée, il m'a ouvert des perspectives incroyables, parce que quand on comprend d'où vient ce qu'on fait, il y a à ce moment-là la possibilité de se projeter dans la nouveauté. Je me comprends mieux, et donc j'entreprends mieux ce que je vais faire. Alors, c'est pas pour autant que c'est gagné, mais parce que le travail reste à faire, mais en tout cas voilà, c'est, alors merci Bénédicte, hein, parce que c'est là le déclic, en fait c'est là que tout se passe avec ce livre Cuisine acidulée.
Ce livre, vous le dédiez à votre mère et à votre grand-mère?
Oui.
Vous le dédiez pas à votre père?
Pas celui-là, mais peut-être un autre. Non, c'est pas... non, parce que c'est de ce côté-là que j'y ai vu la grande partie des ressources de recettes, en effet. Et puis parce que les femmes étaient trop dans l'ombre. Voilà, il y a le côté maternel qui... C'est pas par conflit, hein, parce que vous dites... Non, non, c'est pas parce que je boude mon père, pas du tout, pas en 2002. Entre 90 et 95, je veux bien, mais pas en 2002. Non, non, mais parce que voilà, je veux mettre en lumière tout ce qui s'est passé du côté italien, surtout, voilà, maternel et italien.
En 2003, le très réputé Gotemio vous désigne chef de l'année. Est-ce que quand vous recevez cette récompense, il y a aussi une forme un peu de consécration, forcément, de se dire qu'enfin vous êtes reconnu pour votre propre cuisine et pas pour celle uniquement de votre père ou de votre famille?
C'est en quelle année, ça?
2003.
Non, c'est pas une consécration. Non. C'est peut-être parce que j'ai fait le livre, en fait, que d'un seul coup, ça me tombe dessus, voilà. Parce que, en publiant un livre, il y a d'un seul coup un coup de projecteur, un regard sur quelqu'un qui étonne. Ce livre a étonné la profession. Souvent, on me dit, j'adore votre livre Cuisine acidulée. Je l'ai avec moi, je le regarde régulièrement, etc. Donc, c'est donc qu'il a marqué, en fait, et il continue. Il a apporté quelque chose, en tout cas. Mais le goût mio, non, je ne veux pas faire la fine bouche quand même, mais je suis honoré d'avoir le titre. Mais voilà, j'en fais pas cas, je continue ma vie.
Est-ce que lorsque vous êtes, que vous reprenez ce restaurant, est-ce que les 3 étoiles Michelin dont vous héritez sont aussi un poids? Est-ce que vous y pensez comme quelque chose qu'il faut absolument garder, perdurer, ou bien vous arrivez rapidement à vous en défaire de cette pression?
Oh, c'est tellement difficile à dire ce qui se passe dans la relation avec le Michelin. Je pense que j'y pense pas vraiment, tout en y pensant. On sait qu'un établissement comme le nôtre tient son équilibre économique et sa réputation avec les 3 étoiles Michelin, et c'est pas une bonne nouvelle de les perdre. Autour de moi, certains établissements familiaux, comme ça, au moment de la transmission, l'ont perdu. Pas nous. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi pas nous. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on a eu de plus, de plus que les autres pour pas avoir été sanctionnés. Est-ce que c'est la transmission longue? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait une rupture, justement, avec la cuisine de mon père qui a permis, en effet, de s'en protéger de la perte de l'étoile? Est-ce que le Michelin saluait par là l'audace d'un héritier? Voilà. Après, nous, au quotidien, et encore aujourd'hui, on vit notre vie, la cuisine et la restauration nous fait vibrer, on travaille pour notre plaisir et le plaisir de nos clients. Le Michelin, franchement, il arrive en filigrane, et on y pense parce que les clients nous en parlent, parce que la question m'y amène, mais sinon, ça revient pas dans nos... Voilà.
Michel Troisgros, vous avez dirigé durant 27 ans les cuisines du restaurant Troisgros, 27 années durant lesquelles vous avez conservé ces 3 étoiles, 27 années durant lesquelles vous avez dû forcément vous réinventer. Nous parlerons donc demain, dans le 4e épisode de cette série d'Avoinu, de votre passion pour l'art contemporain qui a nourri votre inspiration et de vos autres restaurants que vous avez ouverts à Tokyo, Paris, Moscou et en Saône-et-Loire.
Ouh là là, ce sera passionnant. À demain.
C'était À Voix Nue avec Michel Troisgros, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Marceau Vassy, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.